Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovine, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Alex Dang.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Premier jour de notre série consacrée aux femmes et à leur place dans l'économie. En 1893, Jules Verne estimait que les cours de chimie devaient avant tout servir à apprendre aux jeunes filles à cuisiner un pot-au-feu. Un siècle plus tard, si l'égalité des chances entre les hommes et les femmes continue de progresser, selon la dernière étude de la Banque mondiale, la France obtenant même la note maximale aux côtés du Danemark et de la Suède, de profondes disparités subsistent, en particulier dans l'univers de la tech. À peine 10% des entreprises du numérique sont aujourd'hui dirigées par des femmes en France, et la Silicon Valley serait la championne des discriminations de genre. Alors avant d'explorer l'histoire des femmes au travail et à l'écran, puis les liens entre capitalisme et patriarcat, pénétrons aujourd'hui dans le monde encore très masculin du numérique. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons analyser les inégalités de genre dans le secteur de la tech en compagnie de Françoise Vouillot, maîtresse de conférences en psychologie et directrice adjointe de l'Institut National d'Études du Travail et d'Orientation Professionnelle. En compagnie également d'Isabelle Collet en duplex de Genève, maîtresse d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, auteure de « L'informatique a-t-elle un sexe ? Hacker, mythe et réalité » paru chez L'Harmattan. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Faites-en une honnête femme et soyez sûre qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous. S'ensuit-il qu'elles doivent être élevées dans l'ignorance de toutes choses et bornées aux seules fonctions du ménage ? L'homme fera-t-il sa servante de sa compagne ? Se privera-t-il auprès d'elle du plus grand des charmes de la société ? Pour mieux la servir, l'empêchera-t-il de ne rien sentir, de rien connaître ? En fera-t-il un véritable automate ? Non, sans doute. Ainsi ne l'a pas dit la nature, qui donne aux femmes un esprit si agréable et si délié. Au contraire, elle veut qu'elles pensent, qu'elles jugent, qu'elles aiment, qu'elles connaissent, qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure. Ce sont les armes qu'elles leur donnent pour suppléer à la force qui leur manque et pour diriger la nôtre. Elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qu'il leur convient de savoir.
Françoise Vouillot, Isabelle Collet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vient d'entendre un extrait de L'Émile, le traité d'éducation de Jean-Jacques Rousseau, publié en 1762. Alors, on l'entend, Françoise Vouillot, Rousseau qui encourage l'éducation des jeunes filles, tout en posant certaines limites.
Oui, c'était bien dans l'air du temps, enfin en tout cas pour Rousseau en particulier, c'est-à-dire un minimum d'éducation, mais à condition que ça convienne à leur supposée nature et leur nature les poussant à être plus proches de la nature que des objets, et puis surtout à cette époque que des idées, c'est-à-dire la philosophie, etc. Donc l'accès des filles dans notre pays au savoir est une histoire. La question de l'éducation a toujours été une question intrinsèquement politique. Donc, est-ce que les filles ont droit à la même formation que les garçons ? C'est donc réfléchir à une place des garçons et des filles, et donc des femmes et des hommes dans la société. Donc, en 1800, on a quand même eu Sylvain Maréchal, fervent républicain et défenseur de l'égalité sociale, qui a eu un projet de loi portant défense à apprendre à lire aux femmes, et aux filles et aux femmes. En 1880, la loi Camissé qui instaure les premiers établissements d'enseignement secondaire pour les filles, que maintenant il n'y en avait pas, alors que pour les garçons, évidemment, des classes extrêmement favorisées existaient depuis longtemps. Mais ce lycée d'enseignement secondaire de Camissé ne prépare pas au baccalauréat, c'est-à-dire empêche toujours les filles d'accéder à l'université, donc au métier du droit et de la santé, qui étaient essentiellement les formations de cette époque, et puis ne comporte pas donc ni le même nombre d'années d'études, mais pas les mêmes matières non plus.
On va voir que cette question de l'éducation, en effet, elle va évoluer au cours du 19e siècle et évidemment du 20e siècle. Mais d'abord, je voudrais revenir au 17e siècle, un siècle avant Rousseau. Fénelon parle chez les femmes d'une pudeur pour la science presque aussi délicate que celle qu'inspire l'horreur du vice. Isabelle Collet, c'est intéressant de revenir sur les liens entre les sciences et les femmes.
Alors, cette citation, je la trouve absolument extraordinaire.
parce qu'elle en dit long sur la crainte que l'on peut avoir si jamais un jour les femmes se mettent à s'intéresser aux sciences. Alors, se mettent à s'intéresser au savoir de façon générale, mais sur les sciences en particulier, il y avait cette idée, par exemple, pour les mathématiques, que si les femmes faisaient trop de mathématiques, les mathématiques étaient desséchantes, c'est-à-dire ça allait les rendre stériles. Alors, vous vous rendez compte, quelle horreur si jamais elles se mettaient à faire des maths.
C'est un moment au XVIIIe siècle en particulier où il y a des ouvrages scientifiques dédiés aux femmes qui présentent les choses d'une façon simplifiée. Il y a tout un genre littéraire qui apparaît à cette époque-là, Isabelle Collet.
Alors oui, on s'est dit que les femmes étaient un sexe qui préférait sentir plutôt que connaître. Et donc on s'est mis à écrire une espèce de science pour les femmes, pour leur rendre les sciences plus accessibles. Alors que quand même, la personne qui avait traduit Newton, c'était Émilie du Châtelet. Donc visiblement, elle n'avait pas besoin qu'on lui réinterprète pour que ce soit plus simple. Mais finalement, cette procédure ancienne de réécrire pour les femmes, c'est pas passé de mode. Hein, quand on voit comment actuellement on s'achine à repeindre la science en pour la rendre plus sympa pour les petites filles, finalement, c'est le même principe.
Vous pensez à quoi en particulier, Isabelle Collet, quand vous dites repeindre la science en rose?
Bah, vous regardez, par exemple, des boîtes de jeux, on fait faire de la chimie aux filles, mais on leur fait faire plutôt des parfums ou des arômes, et la boîte, elle est toute rose. J'ai même une planisphère où les océans sont en rose pâle et les continents sont en rose foncé, donc d'une part, c'est idiot, et d'autre part, ça veut dire que les planisphères dites normales, elles sont pour garçons. L'idée de base, ce serait d'intéresser les filles aux sciences comme s'il faudrait faire du super girly pour que les filles s'intéressent à la question.
Et en même temps, dès le XVIIe siècle, un autre philosophe, François Poulain de la Barre, défendait l'idée que l'inégalité de traitement que subissent les femmes n'a pas de fondement naturel, mais procède d'un préjugé culturel, Françoise Bouillot. Et à l'époque, il incitait les femmes, au contraire, à se tourner vers la discipline scientifique.
Oui, c'est intéressant que vous citiez François Poulain de la Barre, parce qu'il n'est pas encore forcément très 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 connu et reconnu. Il a écrit un ouvrage au XVIIe siècle qui s'appelle « De l'égalité des deux sexes », un ouvrage qui est composé de deux parties. Le premier, c'est tous les préjugés qu'il y a, il ne parlait pas de stéréotypes à cette époque-là, sur les filles et sur les femmes, préjugés négatifs, mais sur lesquels on s'appuyait pour justifier leur position inférieure dans la société. Puis ensuite, il développe pourquoi c'est comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'oppose totalement à l'idée qu'il y aurait une nature féminine et une nature masculine, mais il dit bien que c'est le problème de l'éducation. C'est-à-dire qu'on dit les filles, les femmes sont plus sensibles et plus émotives, dit-il, mais toute l'éducation qu'on leur donne est faite pour les fabriquer ainsi, et puis ils démontent aussi tous les préjugés dans les philosophies anciennes et contemporaines à lui-même qui véhiculent ce postulat quand même de l'infériorité intellectuelle, physique des femmes.
Vous avez retracé pour nous, Françoise Vouillot, les différentes étapes de l'histoire de l'éducation des filles au XIXe siècle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut attendre les décrets d'application de la loi Abby en 1975 pour que l'obligation de mixité soit imposée à tous les niveaux de l'enseignement public et dans tous les établissements. Et donc c'est seulement à partir de ce moment-là que les mêmes cours vont être dispensés aux filles et aux garçons.
Oui, enfin j'ai retracé à très 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 grand trait quand même. Cette histoire est plus détaillée que celle que j'ai évoquée. J'ai rappelé Camille Cé parce que c'est une étape importante. À la fin du 19e siècle, on est sous la Troisième République qui veut arracher, entre guillemets, l'éducation des filles des classes favorisées au clergé. Et donc leur offre un enseignement laïque, mais je l'ai dit, pas le même que les garçons, qui passent toujours pas le bac. D'ailleurs, à cette époque, il y a une citation du ministère de l'Instruction publique qui dit qu'en gros, c'est le mérite des lycées de nos jeunes filles de ne les préparer à aucune carrière, c'est-à-dire à aucun métier, mais de les préparer à leur tâche de future mère de famille et d'éducatrice.
On revient au pot-au-feu
voilà,
de Jules
donc,
Verne.
Donc 1900, effectivement, on attend... Alors on n'est même pas sur la question de la mixité à cette époque-là, c'est même l'accès au savoir, l'accès à certains métiers pour lesquels l'accès passe par le baccalauréat. Qu'elles n'ont toujours pas, elles n'obtiennent ce droit qu'en 1924, de passer le baccalauréat.
Et on voit que cette mixité est très tardive. Voilà.
Alors la mixité, c'est encore, j'allais dire, c'est toute une histoire, ça aussi. Hein. Est-ce qu'on fait cohabiter est-ce qu'on met en place une co-éducation entre les filles et les garçons? Et il faut attendre, effectivement, les décrets d'application en 1967, la réforme Abby 1975, qui fait obligation de mixité à tous les établissements de l'enseignement public à tous les niveaux. C'est pas pour autant qu'elle est constatée partout.
Alors justement, cette mixité, on va le voir, n'est pas nécessairement synonyme d'égalité. Et ce que vous vous indiquez, Françoise Bouillot, c'est que les filières choisies au lycée par les filles et les garçons le montrent bien.
Oui, alors j'ai parfois employé cette expression que l'orientation était le butoir de la mixité, c'est-à-dire que tant qu'il y a obligation à un tronc commun de formation, de la maternelle à la fin de la classe de troisième, les garçons et les filles sont là ensemble. Et dès qu'il y a une diversification de l'offre de formation, les fameux paliers d'orientation, troisième, fin de seconde, fin de terminale, eh bien les garçons et les filles ont une tendance à se séparer, à ne pas partager les mêmes intérêts et ne pas aller dans les mêmes sections.
Donc vous faites... Est-ce qu'on constate, c'est quoi là, les stéréotypes de genre jouent beaucoup dans l'orientation professionnelle? Je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques exemples.
Eh bien, les stéréotypes de sexe, oui, jouent un rôle dans tous les parcours scolaires, mais c'est dans la construction des personnes aussi, puisque dès la naissance, parfois même avant, mais partons de la naissance, tout est fait dans l'éducation, pour différencier filles et garçons. Ce matin, j'entendais justement à la radio le témoignage d'une chercheuse qui travaille sur les pleurs des bébés et qui disait que les pleurs des bébés se différencient absolument pas entre les filles et garçons. Il n'y a pas de différenciation de fréquence des sons des pleurs des bébés. Mais les adultes leur prêtent cette différenciation et traitent telle pleure comme des pleurs de filles ou de garçons. Donc vous voyez, c'est pas qu'à l'école, ça continue,
ça
on va
loin.
Dire, à l'école. Et donc il y a des dimensions qui sont très impliquées dans les choix d'orientation, pour les filles comme pour les garçons, qui sont la confiance en soi, qui sont les sentiments de compétence. Hein, on ne va pas choisir une formation si en même temps on est complètement incompétent. Et puis les intérêts, avoir un minimum d'intérêt pour telle formation ou tel métier.
Et toute la question, c'est comment ces dimensions-là sont construites, justement.
Alors les trois dimensions que je viens d'énoncer, effectivement, sont des constructions, se construisent. On ne naît pas avec une certaine confiance en soi, certains types d'intérêts et certains sentiments de compétence ou d'efficacité personnelle. C'est vraiment toute une construction et un développement. Et ils sont extrêmement sexués sous l'effet du genre, c'est-à-dire des normes de masculinité et de féminité.
Mais ce qu'on se demande, Françoise Bouillot, c'est comment expliquer justement que les filles, par exemple, soient plus attirées ou en tout cas plus présentes, plus nombreuses dans les secteurs du soin, de l'éducation et du social. Et pourquoi aussi l'absence ou la relative absence des garçons dans ces filières et métiers ne semble pas vraiment poser de problème.
Oui, alors c'est très, très important, très intéressant, très important que vous fassiez mention des garçons. Parce que la question de la non-mixité des métiers, et donc qui est un frein à l'égalité hein, entre les femmes et les hommes, c'est pas seulement le fait des filles vers les sciences et techniques. C'est vraiment prendre le problème par un petit bout de la lorgnette. Donc c'est révélateur, bien évidemment, mais comme est tout autant révélatrice, l'absence encore plus cruciale des garçons dans les filières du soin, du social, de l'aide à la personne, etc. Donc je répète aussi que quand il y a la présence massive d'une des deux catégories de sexe dans une filière de formation, c'est pas toujours que cette catégorie de sexe se précipite dans cette filière, c'est parfois beaucoup dû au fait que l'autre catégorie n'y vient pas. 80% des élèves de la filière L sont des filles, c'est pas du tout la filière qu'elles choisissent en premier. Mais il y a 80% des élèves qui sont des filles parce que les garçons n'y mettent pas les pieds. Voilà. Donc ces normes de masculinité et féminité font qu'effectivement, depuis l'enfance, à travers l'éducation familiale, la socialisation dans les structures de la petite enfance, les jouets très importants, eh bien les garçons et les filles vont se construire des intérêts différenciés pour bien répondre, montrer qu'ils sont bien conformes et bien compétents à faire marcher les normes de masculinité et féminité.
Isabelle Collet, ces stéréotypes, ces normes dont on parle, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui les filles s'orientent assez peu, notamment vers l'informatique sur laquelle vous avez beaucoup travaillé?
Alors ça ne va pas suffire pour les expliquer à vrai dire, parce que ma foi, la part des femmes en informatique a dramatiquement chuté, on va dire depuis les années, fin des années 80, début des années 90. Faut pas penser qu'on avait atteint l'égalité des sexes dans les années 80 et qu'on l'aurait soudain perdu. Donc évidemment, les stéréotypes jouent, les représentations jouent, c'est certain. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, la structure d'emploi de l'informatique a aussi contribué à cette diminution de la part des femmes. Et finalement, comme le disait Françoise, l'arrivée massive de garçon a fait en sorte que les femmes semblent très rares. Finalement, quand on regarde les courbes, les femmes ont jamais été extrêmement nombreuses, mais c'est surtout la part des garçons qui a augmenté de manière considérable. C'est pas une disparition des filles des études d'informatique, mais une arrivée massive des garçons.
Alors on va revenir effectivement sur cette diminution depuis la fin des années 80. On est passé de 30% de femmes ingénieures dans le à 15%. Il y a eu une diminution importante dans l'informatique. Mais d'abord, je voudrais revenir vers vous, Françoise Vouillot. Vous diriez qu'il y a aujourd'hui une relative inconscience des parents comme des acteurs de l'école, de ces inégalités de genre à l'école?
Alors, les inégalités de sexe à l'école, elles peuvent se révéler effectivement à travers les chiffres, on va dire, de l'orientation. C'est quand même quand on prend les chiffres de l'orientation qu'on s'aperçoit que toute chose étant égale par ailleurs, eh bien quand on est un enfant de milieu défavorisé ou quand on est une fille ou quand on habite en centre-ville ou plutôt en banlieue ou dans des territoires ruraux, on n'a peut-être pas exactement les mêmes opportunités. Donc, en ce qui concerne l'orientation, oui, il y a une sorte d'inconscience de ce que ça révèle, parce que je pense que la plupart des personnes, que ce soit les parents, que ce soit les jeunes, enfin les enquêtes en attestent, et que ce soit les acteurs et les actrices du système éducatif, pensent que les choix d'orientation sont des choix de liberté, qu'on n'a pas à imposer quoi que ce soit. Je dis pas non plus qu'il faudrait imposer quoi que ce soit, mais qu'ils sont l'expression de la liberté des garçons, des filles, de se choisir plutôt ça. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'elles veulent. Les choix d'orientation sont vus comme, j'ai pu l'écrire à certains moments, l'expression normale des différences supposées naturelles des filles et des garçons. Donc, comme le disait il y a déjà longtemps Nicole Mosconi, il n'y a pas à ce sujet là de demande sociale. Personne ne se plaint de cette division sexuée de l'orientation qui est l'antichambre et l'anticipation de la division sexuée du travail.
On s'y plaint peut-être plus tard au moment de l'arrivée sur le monde du travail ou du constat qu'il y a moins de femmes dans tel ou tel domaine, mais est-ce que vous diriez que c'est lié à un manque de formation des acteurs du système éducatif justement sur ces questions?
Alors, vous disiez, oui, qu'on s'en plaint peut-être un peu plus tard. Oui, bien sûr, on rencontre des personnes dans les entreprises chargées notamment du recrutement ou de la gestion des personnes, des carrières, se plaindre, oui, de l'absence de femmes dans des métiers techniques, les métiers ou des fonctions ingénieurs, mais même au niveau technicien et technicienne.
Et d'abord pour des raisons économiques, d'ailleurs, plus que politiques.
Oui, on évoque cela, oui, c'est-à-dire qu'il arrive un moment aussi, on va dire que le vivier des garçons, il a donné son plein, donc il faut un peu aller voir ailleurs. Ça peut être aussi une variable d'ajustement, comme a pu l'être l'immigration aussi à une époque. On se plaint, en revanche, j'entends rarement des personnes se plaindre dans les milieux de travail de la petite enfance ou du soin à la personne, de la quasi totale absence des hommes dans ces métiers-là. Ça aussi, il faut quand même montrer que c'est jamais symétrique. Voilà. Donc oui, c'est un problème de formation. De formation des acteurs et des actrices de l'école. Nous militons depuis très longtemps sur cette mise en place d'une véritable formation initiale, obligatoire et consistante et pertinente pour que les pratiques professionnelles changent à l'école.
Parce que ce qu'on constate et qui est important à souligner, c'est que les élèves ont tendance à se fier à l'opinion que les professeurs se font d'eux. C'est en tout cas ce que nous explique le philosophe des sciences Étienne Klein.
Il est démontré qu'un élève, au bout d'un certain temps, produit des performances qui sont conformes à sa réputation. S'il a la réputation d'être mauvais en maths, bah il va rater, il va être mauvais en maths. Il va en quelque sorte confirmer par ses épreuves ce qu'on pense de lui.
La conséquence de ce phénomène, Françoise Vouillot, c'est que les filles ont tendance à s'auto-censurer face à certaines filières.
Oui, alors ce qui est évoqué là fait penser par association d'idées à ce qu'on appelle la menace du stéréotype, concept élaboré par Steele et Aronson, des chercheurs américains dans les années 1995. Qui montre que quand on est un groupe de personnes stigmatisées par un stéréotype négatif, par exemple les filles sont nulles en maths, on intériorise ce stéréotype très tôt dans son développement, dans son propre développement, voilà. Donc il y a un certain nombre de personnes qui, face à une situation, si on met en exergue que c'est un exercice de maths, eh bien, vous avez en moyenne les filles qui vont avoir à gérer la peur de rendre vrai le stéréotype « les filles sont nulles par leur propre performance », ce qui va entraver leur performance, ce qui fait que leur performance ne reflétera pas leur niveau en mathématiques totalement objectif. Donc c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Donc de l'intérêt à apprendre aux futurs enseignants et enseignantes l'existence de ce processus pour éviter que dans leur pratique pédagogique, ils l'activent sans le savoir et du coup rendent les filles moins performantes qu'elles ne pourraient l'être.
Alors justement, il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont été mises en place pour tenter de lutter contre cette division sexuée au moment de l'orientation. Et alors la question qui se pose, c'est pourquoi, Françoise Bouillot, ces politiques publiques, je pense à des campagnes télévisées notamment, semblent avoir échoué à transformer la situation, alors même que l'État essaye d'inciter les filles à rejoindre les filières scientifiques depuis les années 60 finalement.
Alors, en matière d'éducation à l'égalité et de promotion de la mixité au niveau de l'orientation, on peut situer les premières circulaires en 1966. Repartons des années 80 où là, il y a eu une première convention entre ministère de l'Éducation nationale et ministère des droits de la femme, à cette époque-là on disait ainsi, pour la diversification de l'orientation des filles vers les sciences et techniques. La cinquième convention interministérielle s'est achevée il y a quelques mois. La sixième va certainement sortir. On est en 2019. C'est dire que cinq conventions ont été drôlement efficaces puisqu'on est encore en train d'en parler et que les chiffres ont quasiment peu bougé.
Alors avant d'en venir aux explications, je vous propose d'écouter simplement un extrait d'une campagne nationale qui a été lancée en 2014.
Il y a toujours eu des femmes et des hommes qui ont eu assez de courage, d'envie, de dons ou de foi pour casser les conventions, supporter les moqueries, les injustices et triompher des préjugés. Ils ont ouvert des voies, des possibilités, créé des vocations. Encourageons-les. Mixité des métiers. Au travail, c'est le talent qui compte.
C'est le talent qui compte. Alors dans ce spot publicitaire, on voit une femme diriger un orchestre et une autre découper une carcasse de bœuf, alors que des hommes s'occupent de bébés ou de personnes âgées. Donc quand on voit ça, on se dit que le message est le bon. Il y a une véritable volonté de lutter contre ces inégalités. Alors pourquoi ça ne marche pas, Françoise Bouillot ?
Je voudrais quand même revenir sur les campagnes dont vous avez parlé auparavant, parce que là c'est un clip, hein, c'est une petite chose. Elles ont souvent été mal ciblées. Trop longtemps, elles se sont intéressées qu'aux filles. On obtiendra de la mixité que si on fait aussi bouger les garçons. C'est tout simplement et bêtement mécanique, hein, si on fait bouger qu'une des deux catégories. Surestimation aussi de l'information. Si les filles ne vont pas dans les filières scientifiques et techniques, c'est parce qu'elles seraient mal informées. Les garçons, eux, le seraient bien, sous-entendu. Et on ne sait pas exactement ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise information.
Et mais puis, c'est une erreur de penser que c'est uniquement pour une question de manque d'information que les filles ne se dirigent pas vers ces filières.
L'information, évidemment que c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Elles ont souvent, elles ne sont qu'incitatrices aussi, hein, ces conventions interministérielles. Il n'y a pas d'obligation, j'allais dire, de résultat, de faire bouger concrètement les chiffres de l'orientation. Donc, puis il y a pas, je vous le répète, il n'y a pas de pression sociale. Personne se révolte contre cet état de fait. Alors, ce clip vidéo que je connais bien, puisque nous l'avons analysé avec des stagiaires dans leur mémoire de recherche, il présente donc, j'allais dire, des femmes à contre-emploi et des hommes à contre-emploi. Hein. Mais si vous l'avez bien en tête, rappelez-vous, la chef d'orchestre, on focalise d'abord l'image sur ses pieds, ses talons hauts, sur ses mains au vernis à ongles très visible. La bouchère, en fait, qu'est-ce qu'elle fait, elle se repeigne en se regardant comme dans un miroir, mais le tranchoir, etc., etc. La grutière a quand même un joli décolleté, et les deux hommes que l'on voit, rien ne dit qu'ils sont vraiment des professionnels. Il y a un jeune qui joue de la guitare près d'une dame âgée sur un fauteuil roulant, ça pourrait être son petit-fils. Non, il lui fait écouter de la musique et c'est le supposé puériculteur qui joue de la guitare dans un dortoir où il y a des bébés qui vont s'endormir. Bon.
Ce que vous dites, c'est qu'on ne met pas vraiment en question, dans le sens où on dira aux femmes, vous restez des femmes avec les stéréotypes que ça sous-entend, si vous choisissez des métiers masculins.
On ne remet rien en cause. Puisqu'on montre ces femmes, et surtout ces jeunes femmes à contre-emploi, mais des jeunes femmes qui sont restées hyper féminines. C'est-à-dire que, d'un côté, on vous dit, vous pouvez devenir chef d'orchestre, grutière, mécanicienne, auto, mais rester des femmes très féminines. Et rester des femmes très féminines, c'est faire marcher les normes de la féminité, ce qui vient venir, paradoxalement, quand même, à l'encontre du but de ce genre de document.
Mais c'est intéressant, Françoise Vouillot, parce que ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a plusieurs visions qui s'affrontent autour de la nécessité de lutter ou non contre les stéréotypes de genre ou de sexe à l'école. L'approche différentialiste, par exemple, estime qu'il y a des qualités spécifiques à chaque sexe. C'est l'une des visions qui peut exister.
Ouais, comme vous dites, c'est une vision. Cette époque différentialiste, enfin, je l'espère un petit peu derrière nous, mais encore une fois, dans l'opinion publique, oui, il y a quand même cette croyance à deux natures différentes, c'est-à-dire que la différence des sexes dédiée à la procréation engendrerait en soi, en elle-même, des tonnes de différences, de traits psychologiques, de comportements, de goûts, de rôles qu'on a envie d'investir, etc. C'est pour ça que la division sexuelle et l'orientation n'est pas perçue comme choquante et scandaleuse.
Isabelle Collet, vous vouliez réagir à cette dimension ?
En fait, je voulais réagir à un moment où vous avez dit quelque chose qu'on entend très souvent, qui est de dire « les filles s'auto-censureraient ».
Oui.
Et le clip qu'on a entendu, il est bien dans ce domaine, c'est-à-dire il semble dire aux filles comme aux garçons d'ailleurs « allez, rendez-vous compte, en fait c'est très très bien, prenez-vous en main et on va abattre les stéréotypes ». En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire c'est un peu facile de remettre entre les mains des acteurs et des actrices, des garçons et des filles, la responsabilité de leur orientation et de dire les filles s'auto-sélectionnent, les filles s'auto-censurent. Parce que quand on regarde, somme toute, depuis la naissance, on est à peu près tous et toutes d'accord maintenant qu'il y a une socialisation différenciée qui s'exerce sur les enfants. Alors, les activités scientifiques sont généralement centrées sur des préoccupations considérées comme masculines. Les jouets, les livres pour enfants, beaucoup de contenus sont stéréotypés. Les femmes manquent de modèles d'identification. Il y a des procédures d'évaluation avec des biais de genre. Françoise Vouillot a parlé de la menace du stéréotype. Plus tard, à la préadolescence, sexisme, harcèlement sexuel, pression des pairs, volonté de conformisme. Et ensuite, quand on arrive dans l'emploi, eh ben on sait bien que face à l'emploi, les hommes et les femmes jouent pas tout à fait à part égale. Au bout du compte, alors oui, effectivement, on constate chez les femmes une perte de confiance en elles, un faible sentiment d'efficacité, mais on peut pas dire que c'est de l'autocensure. Pour reprendre les propos de Blanchard et Orange, c'est une véritable censure sociale qui s'applique sur elles. Donc si on dit aux femmes, allez, courage, allez-y, peut-être qu'on arrivera à augmenter la part des femmes, mais quand même ce serait beaucoup plus efficace qu'on arrête avec cette censure sociale. On n'aurait plus besoin d'encourager les femmes à être encore plus fortes.
Françoise Bouillot.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec les propos d'Isabelle.
On fait peser la responsabilité sur les femmes.
Oui, il faut qu'on arrête avec ça parce qu'on ne va pas avancer. Donc c'est ce qui se passe au moment des choix d'orientation et des choix de métier, c'est le produit de toute cette socialisation différenciée. Donc les filles ne manquent pas d'ambition, elles ne s'auto-censurent pas, elles n'ont pas une propension naturelle à ces processus et à ces manières d'être. Elles sont le produit de ce qu'on a fait d'elles. Et quand on regarde la question de l'orientation, trop souvent, on est sur la conduite des choix d'orientation, on ne s'intéresse pas aux trois autres maillons de l'orientation qui sont très prégnants et très influents sur cette division sexuée, qui sont les politiques, c'est toujours une politique l'orientation, ce sont ensuite des procédures d'orientation qui mettent en œuvre la politique, et je pourrais en parler deux secondes de ces procédures, ce sont des outils et des pratiques d'accompagnement au projet, et puis in fine des conduites. Alors il y a eu un concept...
Sur ces procédures.
Oui, sur les procédures d'orientation, dans une recherche que j'ai menée avec mon collègue Rodrigue Ozen et des stagiaires pour leur mémoire de recherche, on s'est intéressé à la probabilité de maintenir un vœu pour la première S à la fin de la classe de seconde entre les filles et les garçons, toutes choses étant égales par ailleurs. On s'aperçoit que quand un garçon a 10 de moyenne à toutes les matières scientifiques en seconde versus une fille qui a 10 de moyenne aussi, il y a 14 points d'écart de probabilité de demander la première S au dernier trimestre, de maintenir son vœu pour une première S. C'est 42% pour les garçons et on tombe à 27%, enfin, qui n'est en général pas corrigé par les conseils de classe. Donc, il y a moindre confiance, enfin, ce que disait Isabelle, moins de confiance des filles en elles, c'est-à-dire que même quand elles ont 12 de moyenne, elles osent moins que les garçons à demander la première S, parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas capables, ce sentiment d'efficacité dont on a parlé tout à l'heure. Et les conseils de classe, enfin, les enseignants et les enseignantes, ne relèvent pas ces processus, ne corrigent, ça se fait ici ou là, mais pas de manière générale. D'où toujours cette nécessité d'exiger cette formation.
Donc on voit bien que la question de l'éducation, elle est en effet fondamentale, et le secteur de l'informatique et du numérique est particulièrement emblématique de ces questions. On va en parler dans un instant.
Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout change, et voici Jules qui lange les fesses de l'héritier. Il balaye, et bientôt quelle merveille, il astique le plancher. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout bouge, et voici que les yeux rouges, il fait cuire le rôti. Il cuisine, quelle splendeur assassine, fait la plongée, il essuie. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais tout marche, mais ça marche, et voici qu'il ne se cache quand il reste à la maison. C'est Germaine qui ramène tout l'argent de la semaine, ce n'est pas contre raison. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais il l'aime, mais il s'aime, et ce n'est pas un problème de savoir qui va porter la culotte ou bien les bottes. Et le seul drapeau qui flotte, c'est une tête d'oreiller. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Mais voici que sonne l'heure de traîner l'enfant qui pleure vers l'école au banc de bois. L'enfant de Germaine et Jules, sans y penser, articule dans les livres d'autrefois. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les recule, et plus tard le petit Jules aura des enfants aussi, qui derrière leur cartable dans l'école imperturbable épelleront ces niaiseries. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle? Les mains dans la merde. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. Oh ben non.
On écoutait.
Vous écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
On écoutait La Vaisselle d'Anne Sylvestre et nous sommes toujours en compagnie de Françoise Vouillot et d'Isabelle Collet en duplex de Genève pour parler des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du numérique. Alors dans les années 80, les féministes espéraient que les technologies de l'information et de la communication en tant que secteur innovant permettraient peut-être des relations plus égalitaires entre les sexes. Et ce qu'il faut dire, Isabelle Collet, c'est que parmi les pionniers de l'informatique, il y a des femmes comme Ada Lovelace ou Grace Hopper. Qui étaient-elles et surtout quel rôle ont-elles joué, Isabelle Collet?
Alors effectivement, c'est ce qu'on a cru au début de l'informatique. Et alors, en fait, on l'a cru sans même connaître ces pionnières, parce qu'on a souvent rapidement amnésique quand il y a des grandes femmes dans l'histoire. Alors, Ada Lovelace est la première personne à avoir écrit quelque chose qui ressemble à un programme informatique, et surtout à l'avoir écrit en des termes que l'on retrouve dans l'informatique d'aujourd'hui, même si son programme a été par la suite complètement oublié.
Alors qu'on est au milieu du 19e siècle.
On est au milieu. C'est un ordinateur mécanique, sur une machine qui avait été créé par Charles Babbage à l'époque, et comme pendant longtemps, c'est le matériel qui avait vraiment de l'importance. Le logiciel, on ne lui accordait pas beaucoup d'importance. Alors si je puis dire, il y avait une place pour les femmes dans ce domaine-là, donc ce n'est pas non plus complètement hasard si c'est une femme qui a écrit le premier logiciel, le premier algorithme, le premier programme. Et c'est toujours assez amusant quand je vais dans des écoles d'informatique et que je parle donc à en gros 90% de garçons et que je leur dis que pendant longtemps, le logiciel était perçu vraiment comme une activité féminine parce que somme toute, c'est du langage. C'est absolument plus la représentation qu'ils ont actuellement du code. Grace Hopper, alors c'est quand même quelqu'un qui était amiral de l'armée américaine, une des premières femmes à pouvoir se prévaloir du titre de senior programmeur, à une époque où ils étaient peut-être 10 ou 12, elle a été homme de l'année en 1968, et elle a inventé la compilation, elle a inventé la compilation qui, pour l'informatique, a été déterminant, et elle a dit que dans l'avenir, le logiciel finirait par coûter plus cher que le matériel, ce qui était totalement vrai, mais à l'époque où elle l'a dit, c'était plutôt prémonitoire. Et d'ailleurs, à partir du moment où le logiciel a coûté plus cher que le matériel, on a trouvé beaucoup d'hommes dans le logiciel informatique.
On va voir effectivement ce retour des hommes à partir des années 80 dans ce milieu. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de ce film Imitation Game qui est sorti en 2014 et qui raconte comment le mathématicien Alan Turing a réussi à décrypter le code nazi Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. L'actrice Keira Knightley y incarne la cryptologue Joanne Clark, recrutée en juin 1940 pour travailler justement au sein de l'équipe chargée de décrypter les codes de la marine allemande. Dans l'extrait que nous allons entendre, elle est refoulée à l'entrée du concours pour intégrer l'équipe avant qu'Alan Turing intervienne.
Afin de soutenir votre effort, se trouve sur votre droite un petit carnet de bouillon vert dont vous pouvez vous servir. Messieurs, vous disposez de 6 minutes pour remplir cette grille, après quoi je passe.
Pardon madame, l'accès à cette pièce est réservé.
Oh, toutes mes excuses pour le retard, c'est le bus qui a crevé en route.
S'il vous plaît, puis-je poursuivre ? Merci.
Vous ne devez pas rester là, madame.
Mais j'ai seulement quelques minutes de retard.
Pour les secrétaires, c'est au premier étage. Cette pièce est pour les candidats.
Puis-je terminer maintenant, je vous prie ?
Je suis une candidate.
Pour quel poste ?
Ce n'était pas précisé dans la lettre.
D'accord, les secrétaires, c'est au premier étage.
Ça disait juste que c'était top secret.
Bon, que se passe-t-il ?
J'ai rempli une grille de mots croisés qui était publiée dans le journal et j'ai reçu une lettre disant que j'étais sélectionnée pour un mystérieux travail. Je m'appelle Joan Clark.
Mademoiselle. Avez-vous vraiment fait ces mots croisés toute seule ?
Pourquoi pensez-vous que je ne les ai peut-être pas fait toute seule ? Je suis très forte pour ce
Madame, je vais devoir vous demander de...
Mademoiselle Clark, je considère qu'un retard, quelles que soient les circonstances, est inacceptable. Allez vous asseoir, que nous puissions continuer.
Voilà, les secrétaires, c'est au premier étage. C'est un extrait qui est emblématique pour vous, Isabelle Collet, du traitement qui était réservé aux femmes au tout début de l'informatique.
Alors, à vrai dire, pas tout à fait, parce que des calculatrices, c'est-à-dire des femmes qui faisaient des calculs à la main, il y en avait beaucoup. On les voit aussi à la NASA dans les figures de l'ombre. Et c'était un poste dans lequel, c'était un poste ingrat, c'était pas un poste dans lequel on faisait carrière, et c'était un poste dans lequel il y avait beaucoup de femmes. Et les premiers ordinateurs humains, en quelque sorte, c'était des femmes qui calculaient.
En fait, dans la continuité de la machine à écrire, le secteur de la programmation, il a ensuite été très féminin dans un premier temps, Isabelle Collet.
Alors, les femmes n'ont jamais été majoritaires, hein. Faut pas embellir les choses, mais effectivement, pendant assez longtemps, l'informatique était vu comme un métier du tertiaire que l'on faisait dans les administrations, et donc, somme toute, pour des femmes scientifiques, ça collait assez bien. C'était, en tout cas, ça semblait plus approprié que l'industrie, le casque, les bottes, le chantier, etc. Ça restait du métier du tertiaire, donc les femmes étaient considérées comme relativement bienvenues, d'autant plus qu'on ne savait pas vraiment à quoi ça servait et si ça allait être porteur. Les filières de prestige, à l'époque, c'était plutôt les maths pures, la physique théorique, et ce qu'on appelait le calcul numérique, ou cette science naissante qui était l'informatique et qui allait dans les administrations, il n'y avait pas de prestige. Donc il y avait de la place pour les femmes scientifiques.
Mais justement, à partir du moment où ça devient plus prestigieux, plus davantage synonyme d'avenir, les femmes sont progressivement marginalisées à partir de la fin des années 80 ?
Alors voilà, les choses se gâtent. En fait, moi je dis qu'il y a une association de malfaiteurs, en quelque sorte. D'une part, entre la montée en prestige du métier, avec des discours institutionnels proches de l'incantation du genre « l'informatique c'est l'avenir, il faut que la France arrive dans le 21e siècle avec beaucoup d'ingénieurs informatiques, etc. » On formait, il y avait des colonies de vacances où on apprenait l'informatique. À l'époque, c'était surtout des garçons. Donc d'une part, mais d'autre part, arrive aussi toute une culture, toute une sous-culture qu'aujourd'hui on appelle la culture geek ou la culture hacker, mais ces termes on les employait pas à l'époque, on les connaissait pas, qui nous venait des États-Unis beaucoup, qui étaient présents dans la science-fiction avec des histoires de robots et de machines. Quand le micro-ordinateur arrive avec des jeux vidéo et quand il arrive dans les foyers, ce sont d'abord les garçons qui sont équipés. Chaque fois qu'il y a un nouvel objet technique, c'est les garçons qui sont équipés les premiers. Et il arrive avec toutes ces représentations de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture geek.
Une mythologie dont les héros sont quasi exclusivement masculins, finalement.
Alors, dont les héros sont quasi exclusivement masculins et qui tournent sur des fantasmes de pouvoir et de puissance qui sont plutôt des fantasmes que l'on transmet aux garçons et pas aux filles. C'est-à-dire, avec l'ordinateur, on peut fantasmer qu'on réécrit les règles du monde et on considère que c'est plutôt aux hommes d'écrire les règles du monde et aux femmes de se contenter de les transmettre. J'ai des discours dans ma thèse de jeunes garçons qui voulaient un ordinateur. À la limite, ils avaient du mal à dire pourquoi ils en voulaient un, mais là, ça leur semblait. Il y en a un qui me dit, c'était le pouvoir, c'était la puissance. Bon, bah, littéralement, il est en train d'exprimer pourquoi il voulait un ordinateur.
Et les conséquences de tout cela, Isabelle Collet, c'est qu'aujourd'hui, la part des femmes dans le numérique recule, alors même que le secteur ne cesse de croître et justement de voir ses besoins en main-d'œuvre augmenter.
Alors je dirais, ça recule plus parce que là on est tellement bas qu'on commence à avoir du mal à reculer, mais il y a eu une chute libre, hein, on peut dire, au début des années 90, et plus le métier est devenu prestigieux, plus il y a eu de l'emploi, la période de l'an 2000, avec ces histoires de bug de l'an 2000 et de passage à l'euro, il y a eu une énorme demande d'informaticiens, le métier a été plus prestigieux et mieux payé que jamais, simultanément avec cette culture et ces représentations du monde d'élite qui prend de l'ampleur, les deux liés ensemble, ça a masculinisé très fortement la culture.
Et non seulement les femmes parviennent plus difficilement à intégrer le secteur de la tech, mais une fois qu'elles y sont, Isabelle Collet, elles sont confrontées à des inégalités de salaire notamment. Donc ce qu'on voit, c'est que le travail des femmes est moins valorisé à la fois symboliquement et économiquement. Et est-ce que c'est parce que, justement, parce qu'il est effectué par des femmes, c'est ce que explique notamment Françoise Héritier.
Alors, pour une femme, c'est plutôt stratégiquement une bonne idée d'aller dans les métiers de la tech. Elles sont plutôt mieux payées que les femmes dans les autres métiers. Ensuite, ramenées à l'intérieur des métiers de la tech, eh ben ma foi, elles rencontrent les mêmes difficultés que n'importe quelle femme cadre dans n'importe quel métier, avec la couche supplémentaire que puisqu'elles sont des femmes, on les suspecte d'incompétence. Et elles vont avoir plus de mal à se faire entendre, elles vont devoir faire leurs preuves davantage que les hommes, et évidemment, un jour, elles vont rencontrer le plafond de verre comme n'importe quelle femme cadre dans n'importe quel domaine. Comme en plus, on part d'un vivier qui est très petit, c'est particulièrement compliqué d'espérer avoir de nombreuses femmes dans la hiérarchie de l'entreprise, vu que effectivement, pour le coup, il y en a déjà très peu qui entrent.
Et puis, elles sont souvent cantonnées aux fonctions support, les ressources humaines, l'administration ou la communication.
Alors, le problème, c'est qu'elles sont réorientées vers ces fonctions. C'est-à-dire que les perspectives d'emploi qu'on leur offre pour faire carrière, c'est plutôt vers ces fonctions connexes à l'informatique. Et après, ça fait des espèces de prophéties autoréalisatrices. Vous voyez, on dit, ah ben, on voit bien que les femmes, au fond, la tech, ça les intéresse pas, parce que dès qu'elles peuvent, elles partent à la formation, au marketing, etc. Mais non, c'est simplement, elles sont pas sottes, hein. C'est là où elles ont des perspectives de carrière. Elles y vont. Malheureusement, c'est rarement les fonctions stratégiques de l'entreprise.
Et alors la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, seulement 11% des salariés dans la cybersécurité et 27% des codeurs sont des femmes. Quelles sont les conséquences, Isabelle Collet, de cette sous-représentation des femmes dans le numérique? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de reproduction de biais sexistes dans les algorithmes, par exemple?
Alors, on en parle beaucoup maintenant. Avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a toujours existé comme risque, mais là, ça devient d'autant plus frappant, parce que évidemment, si vous avez un monde qui est défini, maintenu, paramétré, installé et conçu par une population très homogène, par exemple des hommes blancs, eh ben, il est très probable qu'ils ont de bonne volonté, d'ailleurs, du mal à imaginer ce que peut avoir un autre type de population. Si les assistants personnels, les agents conversationnels, par exemple, si Siri a une voix de femme, c'est bien parce qu'elle était conçue par un groupe qui avait plutôt, un groupe de programmeurs qui avait plutôt envie d'entendre une voix de femme. En soi, on peut pas le leur reprocher. Simplement, si le groupe de programmeurs avait été plus mixte, on aurait eu probablement plus de voix. Alors là, vous allez me dire encore, c'est anodin, c'est pas très grave. Ça devient plus problématique quand on décide de se soumettre aux productions, de l'intelligence artificielle, par exemple. Si vous avez un système qui va vous aider à décider à qui on va donner des prêts aux entreprises, bah, le système, comment il fait? Il regarde comment on s'en sort d'ordinaire pour distribuer des prêts en phase de dossier de montage d'entreprise, et il va reproduire ce qu'il connaît déjà. Actuellement, on sait que à dossier égal, les hommes ont plus de chances d'avoir le prêt que les femmes. Le système informatique, il va juste reproduire les biais que nous-mêmes nous mettons en œuvre. Si nous réfléchissons pas un tout petit peu à comment on conçoit les algorithmes, ils vont juste nous permettre d'être encore plus sexistes qu'ils le sont déjà.
Il y a d'ailleurs une tribune publiée début décembre dans Les Échos, intitulé « Imposer la mixité dans l'économie numérique », un collectif de dirigeants d'entreprises qui appelait à créer un fonds d'investissement consacré aux entreprises fondées ou dirigées par des femmes, puisque la question de l'accès au financement, c'est également et quelque chose de particulièrement important, Isabelle Collet.
Bien évidemment, et on voit bien avec ce fonds qu'on a besoin d'un coup de pouce. C'est-à-dire, en tout cas dans le numérique, on est tombé sur des chiffres tellement bas qu'un effet d'entraînement naturel, enfin un progrès naturel de l'égalité, ça se produira pas, quoi. Il faut vraiment maintenant regarder les choses en face et se dire, bon bah, dans quel monde, dans quelle économie est-ce qu'on a envie d'évoluer? Est-ce qu'on trouve normal? Est-ce qu'on peut s'accommoder pour un secteur d'activité aussi important que 90% de l'humanité ne soit pas représentée?
Et ce que vous dites, Isabelle Collet, c'est qu'il faut modifier de l'intérieur la culture masculine du monde de l'informatique et pas seulement y faire venir des femmes. Ça ne suffira pas, selon vous.
Alors, en fait, on a vu en œuvre deux solutions qui, toutes les deux, ont marché. Effectivement, si on trouve des moyens, je dirais mécaniques, de l'ordre du quota pour apporter une population vraiment différente dans un univers dans lequel elle n'était pas préalablement, on va changer la culture. Effectivement, on transforme de façon importante la population, et bien à l'arrivée, la culture de cette formation va changer. C'est pas en soi parce que c'est des femmes, c'est que simplement on va rendre la population plus diverse, et là en l'occurrence, là pour le coup, en y mettant plus de mixité. Mais après, on peut prendre aussi les choses par l'autre bout, et on peut se demander comment nous sélectionnons notre élite informatique? Comment nous sélectionnons dans les écoles les personnes que nous jugeons en capacité de faire de l'informatique? Est-ce que la manière dont on sélectionne, qui pour l'instant, visiblement, ne concerne que des hommes ou quasiment, est-ce que c'est la seule bonne manière d'avoir des formations de prestige? Actuellement, il y a un truc tout simple, hein, c'est que au bac, les femmes ont plus de mentions au bac S que les hommes. On peut se demander comment ça se fait que les meilleurs élèves ne vont pas faire de l'informatique.
Et on peut aussi se demander pourquoi un certain nombre de femmes choisissent des métiers qui sont dominés par des hommes, alors même que ce que l'on entend, c'est que les femmes qui choisissent des filières réputées masculines ont plus de mal que les autres à s'insérer dans le monde du travail, Françoise Vouillot.
Parce qu'on va retrouver dans le fonctionnement du marché du travail, là aussi, l'effet des stéréotypes, et donc des stéréotypes qui vont légitimer des discriminations. Un chef d'entreprise qui dit « moi, je n'embauche pas des femmes à ce poste d'encadrement parce que les femmes manquent d'autorité ». C'est un vrai propos, hein, c'est pas une illustration inventée. Donc ce monsieur fait de la discrimination, qui est un délit, enfin c'est puni par la loi, mais ça s'appuie donc sur un stéréotype pour légitimer, justifier sa discrimination. C'est-à-dire, en gros, je discrimine pas, je fais pas d'inégalité. Simplement, les femmes, par nature, manquent d'autorité et ne seront pas opérationnelles sur ce type de fonction. Donc, effectivement, le fonctionnement du marché du travail, lui aussi, fonctionne avec des stéréotypes et puis les normes. C'est-à-dire, depuis que les enfants, à partir du moment où un enfant est né, et qu'il est d'abord vu à travers sa particularité biologique d'être un petit garçon, enfin un petit mâle, ou une petite fille, une petite femelle, il va être vu, il va être interprété, il va être éduqué selon les normes de masculinité et féminité en vigueur dans sa culture, etc. On sait, tout le monde sait ce qui est bien, mais plus ce qui est normal pour une fille ou pour un garçon. Donc les enfants les apprennent très tôt, ces normes et ces règles. Et ils vont en être des acteurs et des actrices, dans la plupart des cas, relativement consentants et consentantes. Il n'y a pas de rébellion. Et pour obtenir d'être bien inséré, bien aimé, bien reconnu, comme un vrai petit garçon masculin, une vraie petite fille féminine.
Et est-ce qu'on pourrait dire que le sexisme est occulté ou euphémisé dans le monde du numérique, car les quelques femmes qui rejoignent ce secteur bénéficieraient de d'autres privilèges, de classe, de race, pour le dire vite? Est-ce qu'il n'y aurait pas un est-ce que ce ne serait pas lié au fait qu'il y a certaines personnes qui appartiennent déjà à un univers de dominants qui rejoindraient cet univers-là, Isabelle Collet?
Alors, il est euphémisé pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est que comme c'est un domaine de scientifiques, beaucoup de scientifiques, hommes et femmes, croient bien sincèrement que puisqu'on est des scientifiques, il n'y a que la compétence qui joue et le sexisme ne joue pas. Donc, ils ne le voient juste pas. Et ils se retrouvent dans des raisonnements circulaires en disant aujourd'hui chacun est reconnu à sa compétence, les femmes sont aussi compétentes que les hommes, ah oui mais alors pourquoi il y a moins de femmes, et ça ne débouche sur rien. Donc il y a cette première croyance là qui existe. De fait, les personnes que j'ai interviewées en informatique me disent qu'en général elles ont eu plus de problèmes de la part de la direction, de clients, de commerciaux de l'entreprise, plutôt que de leurs collègues en informatique. Ce qu'elles reprochent à leurs collègues en informatique, c'est plutôt un manque de solidarité par ignorance. Ils ne voient pas que c'est un système continu qui a tendance à écarter les femmes. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, c'est subtil, c'est plus très vrai, mais pendant un temps, les femmes en informatique avaient tendance à être issues de classes sociales supérieures aux hommes. Donc elles étaient très bonnes élèves dans des meilleures classes sociales, des meilleures écoles. Donc en fait, elles n'imaginaient même pas qu'elles pourraient un jour rencontrer la discrimination. Et donc elles la rencontrent, et en particulier à 30 ans, au moment où elles ont des enfants, où l'entreprise soupçonne qu'elles veulent avoir des enfants, et là elles se rendent compte qu'en fait elles sont traitées comme n'importe quelle femme dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire au moment où la carrière des hommes décolle, la leur stagne, parce qu'on attend de voir si elles font une quantité d'enfants dont elles vont s'occuper exclusivement.
Mais cela explique qu'il n'y a pas eu de mobilisation ou de militantisme en amont. Il n'y avait pas cette conscience de la discrimination.
C'est ça, voilà. Comme dans beaucoup de domaines, en l'occurrence. Alors là, maintenant, évidemment, ça bouge. Quand on est vers 11-12% sur un métier aussi porteur, les questions se posent. Quand j'ai soutenu ma thèse, il y a une bonne douzaine d'années maintenant, il y avait une indifférence totale sur la question et on me disait « Non, mais les femmes, elles aiment pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est dommage, mais elles aiment pas. » Et aujourd'hui, en tout cas depuis 2015, on me dit « Comment ça se fait que ce secteur qui ne veut pas être discriminant et qui est demandeur n'arrive pas à attirer les femmes ?» C'est tout à fait différent comme positionnement.
On pose la question autrement, Françoise Bouillot.
Oui, je voudrais renforcer ce que Isabelle a dit à propos du sexisme et de son déni. J'ai été rapporteuse récemment du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le premier état des lieux du sexisme en France, où on démontre encore sa prégnance, ça va de la blague, féminicide, et puis sa tolérance surtout. Et à l'école, on n'en parle pas encore assez du sexisme présent à l'école entre les enfants et les adultes, entre les adultes eux-mêmes et elles-mêmes. Et je défends une idée qui est un peu en français une porte ouverte pour les personnes qui réfléchissent à ces questions, mais c'est que les filles, sans prononcer forcément ce terme, anticipent ce que j'appelle une socialisation pour le moins un peu rugueuse quand elles savent qu'elles vont se retrouver uniques ou deux ou trois, par exemple, dans une section de mécanique auto ou de maçonnerie en lycée professionnel. Mais cette socialisation pour le moins un peu rugueuse, les jeunes femmes qui entrent à Polytechnique, à l'école des mines, etc., la vivent tout autant. Donc c'est pas une question que de milieu social ou de niveau scolaire, mais je crois qu'un des freins à la mixité aussi et à l'engouement des filles vers certaines sections, c'est la socialisation qu'elles vont être obligées d'affronter au moins pendant quelques mois pour être tolérées, c'est-à-dire légitimées, reconnues comme ayant leur place.
On arrive au terme de cette émission. Isabelle Collet, peut-être un dernier mot sur cette socialisation et plus largement sur l'avenir de ces liaisons houleuses dont on a parlé entre les femmes et le monde de la science.
Alors, c'est pas à peine que j'enchérisse sur la socialisation. Françoise l'a très bien dit. Je veux juste quand même finir sur une note un peu positive, parce que une fois qu'on nous a entendu là au bout de 7 heures, on va se dire, mais décidément, le numérique, c'est fini pour les femmes. Alors, vraiment, j'aurais pas dit ça avant, mais depuis un an, il y a des choses qui changent. Alors, il y a beaucoup d'initiatives, hein. Par exemple, il y a la Fondation Femmes at Numérique dont je suis au conseil d'administration, qui a la volonté de faire bouger les choses. Il y a des écoles d'ingénieurs très anciennes qui ont une tradition d'égalité qui, aujourd'hui, en informatique, constatent qu'elles s'approchent de la parité, comme l'INSA à Lyon. Il y a les MIAGE, qui sont des masters en informatique de gestion, les trois plus grosses MIAGE de France. Eh bien, elles ont passé les 30%. On n'avait pas vu ça depuis les années 80. Donc, je pense qu'enfin, actuellement, d'une part, grâce au discours institutionnel qui encourage les femmes à aller dans l'informatique, et d'autre part, toutes ces initiatives de femmes dans la tech, on a quelque chose qui bouge. On peut peut-être espérer que dans 2-3 ans, ce sera l'histoire ancienne.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à toutes les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du coût véritable de la voiture autonome.
Mais oui, depuis quelques jours, la presse spécialisée s'extasie des évolutions et des révolutions en perspective dans le secteur automobile. Les constructeurs ont multiplié ces derniers temps les promesses d'alliance et de collaboration avec les géants du numérique pour construire la voiture du futur. Volkswagen a ainsi annoncé la semaine dernière le lancement d'un partenariat technologique avec Microsoft. Le constructeur Renault-Nissan a conclu quant à lui un accord de coopération avec Google pour équiper ses véhicules en technologie de pointe et les rendre autonomes. Il faut dire que les perspectives de développement économique sont phénoménales dans ce secteur. Une étude réalisée par la société américaine ABI estime que 8 millions de voitures autonomes seront sur les routes d'ici à 2025, soit un potentiel de 300 à 500 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Pourtant, derrière l'attrait économique et l'intérêt pour la prouesse technologique, certains s'inquiètent de l'impact potentiellement désastreux de ces voitures dites autonomes.
Oui, comme l'explique Célia Isoard dans un article du média en ligne Reporter, le développement de cette nouvelle génération de véhicules connectés est difficilement compatible avec l'idée de sobriété vers laquelle il faudrait pourtant se tourner si l'on veut éviter la catastrophe écologique qui vient. Ainsi, pour vous donner une idée de l'ampleur de ces bouleversements, l'article rappelle que ces voitures connectées regorgent de dizaines, voire de centaines de composants électroniques, ordinateur central, radar de longue portée, caméra et capteurs permettant au véhicule de se mouvoir sans l'aide d'un conducteur. Autant de pièces qui augmenteraient considérablement la demande en terres rares issues d'activités minières parmi les plus polluantes au monde. Sans compter que le développement de ces véhicules autonomes rendrait beaucoup plus attrayant les déplacements en voiture individuelle et entraînerait une multiplication des émissions de gaz à effet de serre.
Au-delà des risques importants de pollution, le fonctionnement de ces voitures conduirait également à une explosion de la production de données.
Oui, la voiture automatisée repose sur la mobilisation de quantités astronomiques de données produites pour guider la voiture en toute situation. Selon le patron d'Intel, un véhicule autonome consommerait ainsi en circulation autant que 3000 utilisateurs d'Internet en même temps. Il faut dire que leur transmission, analyse et stockage consomment de l'énergie, beaucoup d'énergie, des milliards et des milliards d'informations stockées dans le cloud, cet espace nébuleux généré pour garder au loin nos informations du quotidien. Autant de puissance informatique qu'il faudra bien entendu alimenter en électricité. Un rapport de Greenpeace nous rappelle ainsi que le secteur informatique est d'ores et déjà responsable de 7% de la consommation mondiale d'électricité, soit plus que la consommation de pays comme la Russie, le Japon ou l'Allemagne.
Enfin, la généralisation de ces voitures de haute technologie implique la modernisation de l'ensemble des infrastructures leur permettant de fonctionner.
Oui, le fonctionnement à grande échelle de ces véhicules nécessitera le déploiement de la 5G et l'équipement des voies de circulation en caméras, transmetteurs radio et autres outils de communication. Une autoroute expérimentale dans le nord de l'Europe est ainsi équipée sur une dizaine de kilomètres d'antennes et d'antennes d'ordinateurs tous les 500 mètres, de caméras tous les 100 mètres. On ose à peine imaginer la quantité de matériel nécessaire et les investissements faramineux qui devront être dégagés pour équiper l'ensemble des routes d'Europe. Autant d'argent qui pourrait d'ailleurs être utilisé pour développer des modes de déplacement alternatifs, sobres et collectifs.
Au-delà du caractère pratique de ce bouleversement, c'est surtout la manière de le présenter qui a de quoi nous interroger, Arjuna.
Oui, on pense ainsi aux paroles du philosophe André Gorz qui expliquait en 1973 que l'automobile, présentée comme un symbole absolu de liberté, était en réalité largement dépendante de la consommation d'une foule de services marchands et de produits industriels que seuls des tiers peuvent fournir, à commencer par le pétrole. Une critique qui n'a rien perdu de sa pertinence tant les sources de cette dépendance se sont multipliées pour développer les véhicules qui n'ont plus d'autonome que le nom.
Sisters are doing it for themselves, d'Aretha Franklin. Merci beaucoup Françoise Vouillot et Isabelle Collet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci également aux techniciens de la RTS à Genève qui ont assuré ce duplex. Demain, nous reviendrons sur l'histoire des femmes au travail. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.